Les sacs à dos, l'émission qu'il vous faut pour parler archéo. Bienvenue sur Transistor dans l'émission concoctée par Archéolab et les étudiants du master médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2. Cette année encore, nous allons vous emmener à la découverte des patrimoines archéologiques et nous irons rencontrer ensemble tous ceux qui contribuent à les faire connaître.
Bonjour et bienvenue dans Truelle et Sac à dos. L'émission du jour vous est présentée par deux étudiants en master de MPHT de Céline Kergonan, Alexis Aubry et Jeanne Val. Nous nous sommes rendus à l'espace d'interprétation archéologique de l'Île-Mère, qui est un petit village au nord de l'Ille-et-Vilaine, pour rencontrer Catherine Bizien, archéologue et responsable de ce centre. Bonne écoute. Bonjour Catherine Bizien. Vous avez mené des prospections et des fouilles à l'Île-Mère depuis la fin des années 90. Pourquoi avez-vous choisi de venir à l'Île-Mère, petite commune de moins de 100 habitants?
Alors, le site de l'Île-Mère a été découvert dans le cadre du programme de prospection inventaire du nord de la Bretagne que je dirige depuis plus de 30 ans maintenant. Ce sont deux prospecteurs avec qui je travaille souvent, donc Alain Nollier et Pascal Madiou, lui-même habitant l'Île-Mère, qui ont découvert les premiers artefacts dans les champs, qui ont permis de conclure, au bout de quelques années de prospection, à l'étendue d'un vaste gisement néolithique moyen sur le site de l'Île-Mère. Et donc, tout naturellement, le développement des investigations archéologiques sur le terrain m'ont amené à participer aux fouilles de l'Île-Mère.
Les études archéologiques ont montré un gisement néolithique de 30 hectares qui couvre la butte et s'étend dans les marais environnants. En quoi ce site du néolithique moyen, donc datant de 4700 à 3400 avant Jésus-Christ, est-il exceptionnel?
Ce site est remarquable de plusieurs manières. D'abord, il faut se repositionner en 1995-2000, au moment où il a été découvert. À cette époque, on connaissait pas ou très mal l'habitat du néolithique moyen en Bretagne. Et donc, il y avait ici possibilité d'étudier ce type d'aménagement. Le néolithique était surtout perçu au travers du mégalithisme et du funéraire et du symbolique et pas du quotidien. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième aspect, c'est que le site de l'Île-Mère couvre aussi bien la butte de l'Île-Mère que les marais tourbeux environnants, donnant possible la conservation de matières organiques et d'aménagements, par exemple en bois ou autre chose habituellement non perceptible sur les sites.
Qui a décidé de mettre en place à l'Île-Mère un centre d'interprétation et pas un musée ou une exposition?
Le choix du centre d'interprétation ne provient pas des archéologues, mais provient de la volonté de monsieur le maire à l'époque, José Alix, de permettre d'avoir un outil qui remettait à disposition du grand public les données issues des fouilles.
Le centre d'interprétation est divisé en deux parties. Pouvez-vous décrire ce qu'on peut y apprendre et faire?
L'espace d'interprétation est divisé en deux unités qui vont permettre effectivement de présenter nos résultats. Alors d'abord, le principe de base pour présenter l'Île-Mère et le néolithique a été de dire on va parler du néolithique à partir des fouilles de l'Île-Mère et non pas parler du néolithique tout simple. On ne fait pas une définition du néolithique, mais on montre ce que l'on a compris. Ça veut dire aussi qu'on va montrer nos hypothèses et on va montrer aussi les choses qui n'ont pas pu être abordées. Voilà, donc il s'agit vraiment d'un discours qui est fondé sur l'aspect scientifique et sur les interrogations des archéologues. Et en ce sens, l'espace muséographique est un peu particulier. Donc les deux espaces côte à côte permettent dans une première espace de présenter le site de l'Île-Mère tant en termes de données géographiques matérielles de terrain, les sédiments, les roches, etc., que les résultats des sondages archéologiques qui émaillent la commune. Le deuxième espace, lui, va être consacré à la culture matérielle et à partir d'ateliers où les enfants peuvent, ou les adultes d'ailleurs aussi, peuvent être mis en action et en autonomie, de comprendre un petit peu quels pouvaient être les gestes du néolithique et les outils du quotidien que nous sommes amenés à côtoyer lors des fouilles archéologiques.
Pour vous donner un exemple d'atelier, chers auditeurs, nous avons suivi l'atelier sur le grattage de peau de bête. Je vous laisse tout de suite écouter l'introduction de Catherine Bizien.
Donc là, ici, nous avons, sur les quatre ateliers proposés, on peut choisir celui sur les outils en pierre pour les activités du quotidien. Donc le panneau ici illustre la thématique en relation avec la vitrine qui est juste en vis-à-vis et qui vous montre effectivement des objets qui ont été retrouvés sur le site de l'Île-Mère. Donc on va avoir on va pouvoir évoquer la chaîne opératoire de la taille du silex pour obtenir à partir d'un nucléus des lamelles, des éclats, des grattoirs, des armatures tranchantes et autres. Enfin, c'est toute la technique effectivement de débitage du néolithique moyen. Voilà qui est ici. Et puis pour effectivement faire comprendre l'importance de ces objets, de ces éclats, et puis la typologie, je propose un atelier de grattage de peau de bête. Alors ici, il s'agit de peau de chevreuil, voilà, qui ont déjà été bien gratouillées d'ailleurs, mais il reste encore un peu de poil là ici. Là, vous avez deux grattoirs qui sont des artefacts actuels hein, qu'on a retaillés, etc., qu'il faudrait d'ailleurs peut-être réaiguiser un petit peu, et qui permettent de gratter la peau.
Nous nous sommes ensuite prêtés au jeu et nous avons gratté notre peau de bête. Et je peux vous dire que c'est pas facile d'enlever les poils d'une peau. Vous l'avez compris, l'originalité de ce site, c'est le fait de pouvoir participer à des ateliers et de pouvoir toucher à des objets. J'ai moi-même porté un tronc d'arbre qui date de 4000 avant Jésus-Christ. Catherine Bizien, pourquoi avez-vous choisi cette approche sensorielle pour votre centre d'interprétation ?
Parce que c'est un des moyens pour faire le lien, pour que le public, et notamment les enfants, fassent le lien avec le passé. C'est la même chose qu'on utilise en archéologie, hein, ce sont les vestiges matériels. Donc permettre de toucher ces vestiges matériels, ça donne du sensible, ça permet de travailler sur une émotion hein, qui n'est pas forcément perceptible autrement. Dans la première pièce, les choses qui sont touchables, ce sont d'abord des échantillons de matière, c'est-à-dire c'est de la tourbe, c'est de la tangue, c'est du schiste, et puis effectivement ce morceau de tronc d'arbre qui n'a pas forcément eu une vocation à être un objet. Ce ne sont pas des objets, ce sont des matières. Dans la deuxième pièce, par contre, les objets archéologiques sont en vitrine et ils font écho avec les ateliers où là, avec l'aide de facsimilés, effectivement, on peut comprendre la vocation et l'utilité de ces objets.
Du fait de cette approche sensorielle, cela veut-il dire que votre public cible était les enfants ?
Oui, on a pensé aux enfants, mais pas que, parce que on a aussi des adultes qui aiment bien manipuler, qui aiment bien essayer, même si ça va être sur des temps plus courts. Mais il n'est pas rare de voir un adulte essayer de polir un bout de hache sur le polissoir. Ça permet de se rendre compte un petit peu de la complexité du geste et puis de l'importance matérielle des outils. Rendez-vous compte, on estime actuellement qu'une hache polie de base en dolérite, il faut au moins une dizaine d'heures de polissage pour avoir un outil fini. Si vous avez affaire à des haches polies, on va dire de prestige et de luxe, on parle de centaines d'heures, mais en fait, on n'en sait rien. Il montre effectivement l'importance de ces objets.
Outre l'aspect sensoriel, vous avez écrit des panneaux explicatifs. Pouvez-vous nous expliquer leurs différents niveaux de lecture et l'intérêt de ces niveaux de lecture pour le visiteur ?
Donc on a 4 niveaux de lecture sur ces panneaux qui se traduisent par des choix de lettrines et de couleurs et les titres. Par exemple, on peut très bien visiter l'espace muséographique en ne lisant que les titres des panneaux, on aura quand même une information. On saura qu'il s'agit d'archéologie, on saura qu'il s'agit du néolithique, on saura qu'il s'agit d'un site archéologique avec des matières et on saura qu'il y a un aménagement de l'espace. De même manière, pour les outils du passé, eh bien, on va savoir qu'il va y avoir de la poterie, que c'est une invention du néolithique, on va savoir l'importance de la mouture, on va connaître l'importance effectivement de la hache polie et l'importance de l'industrie lithique. Mais on peut, sur chacun des panneaux, rentrer dans des complexités avec les sous-titres, qui apparaissent en gras, ou encore avec des textes écrits en plus petit qui nécessitent plus de concentration. Il n'en est pas moins vrai que l'écriture des textes a fait l'objet d'une chasse assez systématique aux mots de jargon de l'archéologue, même si de temps en temps nous en avons laissé. Là, je vois par exemple apparaître le mot anthropologie sociale. C'est certain que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains, et c'est certain mérite aussi d'être entendu. L'espace muséographique peut se visiter effectivement en un quart d'heure, pour ceux qui veulent lire que les titres et regarder que les vitrines, mais on sait qu'ils peuvent se visiter aussi en 2 heures, pour ceux qui veulent effectivement approfondir. Au-delà en relation avec les panneaux et les objets qui sont en vitrine, vous avez aussi 2 montages vidéo qui vont dans la première pièce développer ce que les textes des panneaux indique, et dans la deuxième pièce, développer les travaux des différentes disciplines scientifiques qu'on peut activer autour des artefacts, des sites archéologiques, comme par exemple la céramologie, comme par exemple les analyses de la dendrochronologie, etc., etc.
Outre les scolaires, quels sont les autres types de publics qui se rendent à l'espace d'interprétation ?
Je ne m'occupe pas particulièrement de suivre le public qui vient ici, parce qu'en fait, l'espace muséographique est ouvert en même temps que les horaires de la secrétaire de mairie, et c'est elle qui assure l'accès. Donc moi j'interviens ici pour l'accompagnement de groupes à la demande, effectivement. Ça peut être des écoles, ça peut être l'université, ça peut être des étudiants, ça peut être à peu près n'importe quel groupe, effectivement, qui a envie d'avoir un discours accompagnant l'espace muséographique. Mais il y a bien des gens qui viennent autrement et qui investissent le site de manière personnelle, etc., qui sont tout seuls dans cet espace.
Quelle communication avez-vous mise en place pour remédier à un certain manque de visibilité et de visiteurs ? En effet, l'île-mère ne compte qu'environ 400 habitants.
Effectivement, c'est surprenant de trouver ce type d'équipement dans un village de 400 habitants. Et encore maintenant, c'est 400, mais quand on a ouvert, il y avait moins de 200 habitants. Donc, c'est assez surprenant. Donc, déjà, il s'agit d'une volonté municipale. Monsieur le maire souhaitait vraiment avoir cet équipement et avait réussi à fédérer autour de lui les services de l'État, les services de la région, du département, de la communauté de communes, etc., de manière à aboutir à ce dispositif. Du point de vue des archéologues, on s'est retrouvé avec quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire réfléchir comment on voulait, nous, en tant qu'archéologues, mettre en place un ensemble de savoirs à disposition du public. C'est nous qui avons fait les choix, ce qui vous renvoie à ce qu'on a fait au départ, c'est-à-dire découvrir le néolithique à partir des fouilles de l'île-mère et en fonction, effectivement, de nos travaux, de ce que nous avons pu comprendre et la manière dont nous avons pu envisager le site.
Comment envisagez-vous de faire connaître ce site, malgré sa situation géographique en milieu rural ?
Il est vrai que, pour le moment, l'espace archéologique de l'île-mère, et ce depuis le début, souffre d'une méconnaissance. Alors, cette méconnaissance, elle a pour objet l'absence de panneaux indicatifs. Donc, la mairie n'arrive pas à se faire financer ces panneaux, indique l'espace muséographique. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, effectivement, c'est un équipement qui est conçu pour fonctionner éventuellement tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la présence de quelqu'un qui va dynamiser, effectivement, l'espace muséographique. Donc ça, ce sont probablement les deux paramètres qui font que ce n'est pas quelque chose de très connu. Troisième paramètre, et c'est extrêmement important, c'est que c'est ouvert en même temps que les horaires de la secrétaire de mairie, donc qui assure l'ouverture. Ça veut dire que c'est fermé le mercredi, le samedi et le dimanche, jour où il faudrait que ça soit ouvert.
Avez-vous des projets pour l'avenir pour ce site archéologique et le centre d'interprétation, avec par exemple l'arrivée d'un médiateur culturel ?
Pas dire qu'on ait des projets, parce que le mot serait trop grand, mais on a des idées. D'abord, on a effectivement au centre archéologique de Saint-Malo, effectivement quelqu'un qui vient d'arriver et qui pourrait développer et prendre le temps de développer la communication et la connaissance par le biais des réseaux sociaux, la presse ou autre, et proposer différents ateliers ou manifestations autour de cet espace muséographique, ça c'est sûr. Après, on a des idées de développement même du espace muséographique avec des changements de vidéo ou autre chose, développement de thèmes qui n'en sont pas abordés effectivement actuellement dans l'espace muséographique mais que nous avons perçu en fouille, et enfin la possibilité d'investir le jardin qui est juxtaposé à la mairie, peut-être pour parler un peu plus de agriculture néolithique ou autres paramètres. Et dernière idée que nous avons, qui nécessite toujours effectivement financement, subvention, donc ce sont bien des volontés politiques, c'est des panneaux autour de la butte de l'île-mère, retraçant sur le terrain les fouilles qui ont pu avoir lieu à chaque endroit. C'est parce qu'effectivement, se retrouver dans le paysage réel ou une vision sur photo, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça c'est une balade archéologique dans le territoire, ce qui est prévu, qui est envisagé.
Pour conclure, le centre d'interprétation de l'île-mère est un lieu tout à fait intéressant dans le milieu de la médiation en archéologie. On a un contraste très important entre la richesse historique et archéologique de la butte de l'île-mère et le déficit d'attention qui lui est porté. Ce n'est d'ailleurs pas la volonté politique qui fait défaut au site, en effet ce cas illustre de façon éclatante les problématiques liées à la ruralité et le manque de ressources financières et humaines qui limitent les possibilités d'action de mise en valeur du site. Ce numéro de Truelle et Sac à dos touche donc à son terme. On vous remercie pour votre écoute. Merci également à Catherine Bizien pour ses réponses et le temps qu'elle nous a accordé. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts de Truelle et Sac à dos sur la radio Transistor et sur son site internet, ainsi que sur la plateforme Spotify.